pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors, chaque semaine sur les Coligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, et bien évidemment Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Le 1er mai, journée internationale de lutte des travailleurs et travailleuses, prend cette année un relief tout particulier. L'arrivée en ce début 2025 à la tête des États-Unis de Donald Trump pour un nouveau mandat de 4 ans préfigure déjà une guerre économique qui mettra à mal une bonne partie du prolétariat. En France, les fermetures d'entreprises et leur cortège de licenciements battent leur plein. Pendant ce temps-là, le gouvernement nous sort un conclave sur les retraites et le président de la République, pour distraire le chaland, nous prépare pour l'automne une convention citoyenne sur l'école. L'équipe de l'actualité des luttes se trouvait dans la manifestation parisienne de ce 1er mai 2025. Mais pour commencer, nous nous rendons en Seine-Saint-Denis pour débuter cette journée internationale de lutte des travailleurs et travailleuses. Bonne écoute.
Si on a décidé de commencer ici à la Bourse du Travail, c'est aussi évidemment dans la poursuite de la lutte qui est menée depuis maintenant 2 ans sur la sauvegarde de la Bourse. Vous vous rappelez peut-être qu'à la fin de l'été dernier, on avait eu cette bonne nouvelle de savoir que la Bourse du Travail était estimée par le tribunal judiciaire comme étant finalement un lieu où on exerçait des missions de service public. Et donc, le tribunal judiciaire avait dit à la mairie qu'en fait, il n'avait pas saisi le bon tribunal, qu'elle n'avait pas saisi le bon tribunal et qu'à ce titre, elle ne pouvait toujours pas expulser les syndicats. Donc, on en est là. La mairie a malheureusement fait appel. Alors, je dis malheureusement parce que ce qui est très étrange, c'est qu'elle n'a pas entendu l'information et elle a fait visiblement, enfin, elle a fait appel au même tribunal. Voilà, donc on aura une date d'audience dans quelques semaines. Et on espère bien que c'est exactement la même décision qui sera prise, c'est-à-dire une décision qui redit que c'est bien un endroit de mission de service public, un endroit qui s'est beaucoup dynamisé aussi hein, pendant la lutte, avec aujourd'hui des activités quotidiennes des syndicats qui l'occupent, mais aussi d'un certain nombre de groupes qui sont ici, comme les brigades de solidarité populaire. Et puis, on a accompagné aussi hein, des luttes sur la ville, dont il sera mention d'ailleurs pendant la manifestation, des luttes logement, notamment, voilà, c'est-à-dire c'est aussi un lieu qui permet d'accueillir sur certaines luttes spécifiques des gens, à la fois pour qu'ils puissent s'y réfugier, pour faire à manger, pour discuter, pour s'organiser. Et donc, on compte bien ne pas s'arrêter. Et c'est pour ça que ce 1er mai, c'était aussi pour nous très important qu'il commence ici.
Nous démarrons cette journée du 1er mai 2025 à Aubervilliers, puisque aujourd'hui, une manifestation part de la Bourse du Travail et va se diriger vers des lieux emblématiques de cette ville, notamment la Maladrerie, mais aussi d'autres lieux, et ensuite rejoindre la manifestation qui a lieu ce même jour à Paris, place d'Italie. Vous êtes toujours à l'écoute de l'actualité des luttes sur l'antenne de Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM, et ce jusqu'à 13h30.
Qu'il y a un mouvement social et des grèves dans le secteur culturel. Et par ailleurs, Aubervilliers est impacté d'ailleurs par un certain nombre de choses en lien avec la situation de la culture.
Bonjour à tous. Alors, donc moi c'est Valentin, je suis syndiqué chez Sud Culture à la section MICAM. Donc MICAM, c'est la section des métiers intermittents de la création, des arts et de la médiation. C'est une section qui est un petit peu récente. Donc c'est une section qui a pour ambition de réunir tous les travailleurs et travailleuses de l'art et de la culture qui sont isolés dans leur profession. Donc, selon les statuts, intermittent, artiste autoriste, en CDDU, en CDD, enfin plein de statuts précaires, quoi. On a le constat dans cette section que les différents statuts, ils isolent et que bah, nous, notre idée, c'est de rassembler tous ces salariés, tous ces travailleuses et qu'on puisse s'organiser ensemble pour faire front commun et défendre nos droits et en conquérir de nouveaux. Alors, on organise une permanence syndicale tous les 19 du mois à Solidaires Paris, rue de la Grange-Aubelle. Donc, si vous avez des problèmes dans le milieu culturel ou le milieu artistique, ou si vous avez des camarades qui ont des problèmes dans ce secteur-là, n'hésitez pas à leur dire de venir nous faire coucou. Faut dire quand même que l'art et la culture, c'est un secteur qui est extrêmement dur, que les travailleurs et travailleuses sont mis en concurrence, que les cas d'abus sont extrêmement courants, et la plupart du temps, ils ne sont même pas dévoilés par peur de ne pas être réembauchés par les employeurs ou les employeuses. Donc non, en fait, le milieu de l'art, ce n'est pas un milieu de gauche, au cas où vous en douteriez encore. C'est un milieu complètement dérégulé, où le capitalisme y est bien, bien implanté. Donc depuis 3 mois, comme le disait la camarade, on est en lutte et on est mobilisé avec le collectif Culture en Lutte, qui est un collectif intersyndical CGT, Sud, CNT et Autonome, qui dure donc depuis 3 mois, comme je viens de dire, et qui se bat contre les multiples coupes budgétaires dans la culture. Vous avez entendu parler qu'il y en a vraiment partout, mais on va dire juste pour Aubervilliers, on sait déjà que les tréteaux de France, ils sont impactés par les coupes budgétaires. Il y a aussi le CAPA, le Centre d'art plastique, qui est impacté. Il y a le Conservatoire régional, et il y a 2 médiathèques. Donc en gros, de notre côté, nous, on dit que les coupes, elles s'apparentent un petit peu à un plan de licenciement économique massif de tout le secteur dans tout le pays. En fait, pour vous dire, c'est hyper radical. Il y en a plein de personnes et de travailleuses qui vont perdre leur job. Bon, après, le mouvement, il se bat aussi, bien évidemment, pour renforcer les services publics en général, hein, bien évidemment. On ne pense pas qu'à la culture. Ça se bat aussi pour renforcer les services publics de la santé, de la recherche, de l'éducation, etc. Parce que bon, c'est une véritable volonté de ce gouvernement, détruire tous les services publics et de livrer nos secteurs en pâture aux capitalistes et à l'extrême droite. Donc, on vous invite à venir dans nos AG. Les AG Culture en Lutte, qui ont lieu toutes les semaines, toutes les 2 semaines, ça dépend, mais c'est à Bourse du Travail de Paris. Et on communique sur les réseaux, parce que notre idée, c'est vraiment de faire front interprofessionnel, et d'organiser la riposte contre ce gouvernement et son monde. Merci.
On est là, on est là, habitantes et travailleuses, nous on est là. Pour de vrais services publics, pour des logements pour toutes, à Aubervilliers des Terres, nous on est là. On est là.
On est là.
On est là. Habitantes et travailleuses, nous on est là. Pour de vrais services publics, pour des logements pour toutes, à Aubervilliers.
Alors on va avoir plusieurs prises de parole là. D'abord peut-être autour des questions d'islamophobie et de racisme. Ensuite, on aura un point sur la République en général et puis un point sur les questions de logement.
Bonjour à toutes et à tous. Donc c'est le 93 au cœur de la République, une association qui a été créée il y a quelques années de par Mouloud Aounit et nous. Donc je suis cofondatrice avec lui, à l'époque avec Boualem Benkellouf qui était aussi syndicaliste et CGT et qui était un élu d'Aubervilliers. Donc aujourd'hui en France, des personnalités médiatiques et politiques de premier plan jusqu'au plus haut niveau de l'État attisent les haines et les peurs, agitant le spectre du séparatisme et l'épouvantail du grand remplacement qui menacerait la République française, une et indivisible. De là, la stigmatisation des Arabes, des Noirs, des musulmans, qu'elles soient françaises ou étrangères, les personnes non blanches sont toujours construites comme de potentiels ennemis de l'intérieur, d'autant plus qu'elles tentent, lorsqu'elles tentent de résister à ces discriminations, la réponse de l'État, c'est perquisition, assignation à résidence, déchéance de la nationalité, dissolution, comme aujourd'hui avec Urgence Palestine, fermeture de mosquées, d'écoles, notamment le lycée Averroès, malgré la décision du tribunal administratif de Lille qui rétablit le contrat entre l'État et le lycée. Une victoire pour l'État de droit. L'expulsion des imams, l'expulsion des femmes voilées, poursuites judiciaires et sanctions administratives sont devenues monnaie courante. Cette ambiance islamophobe s'est soldée encore une énième fois par un assassinat d'un musulman dans une mosquée de la Grande Combe. Le 25 avril, Aboubakar, victime de ce crime odieux et islamophobe, perpétré contre ce fidèle dans des conditions atroces. Cette escalade très inquiétante des violences et discriminations envers les musulmans en France, le 93, nous condamnons fermement et éprouvons une immense tristesse suite à cet acte islamophobe et face à cet acte ignoble. Nous affirmons notre totale solidarité et présentons nos sincères condoléances à la famille d'Aboubakar, à ses proches et à l'ensemble de la communauté musulmane. Aucune vie ne vaut plus qu'une autre. Nous condamnons le meurtre qui a frappé le jeune Aboubakar. Du fait de sa confession musulmane, la lutte contre le racisme et l'islamophobie est l'affaire de toutes et tous. Nous serons toujours debout et nous crierons assez, assez de cette ambiance nauséabonde. Merci.
On est plusieurs des brigades de solidarité populaire Aubervilliers-Pantin. On est un collectif libertaire qui milite sur Aubervilliers et Pantin depuis maintenant 5 ans en soutien à toutes les luttes locales. On a beaucoup travaillé à partir du Covid sur les questions d'urgence sanitaire, contre les expulsions de squats notamment. Et donc aujourd'hui, la principale lutte sur laquelle on est mobilisé, c'est la lutte des squats et pour les logements. Plutôt sur Pantin, avec le Batiscaf qui a été expulsé il y a quelques mois maintenant, en janvier, suite à un incendie. Et donc la mairie en a profité pour les expulser. Aujourd'hui, il y a une grosse partie des habitants qui habitent à la Trotteuse, donc il y a un autre bâtiment à Pantin. La Trotteuse est expulsable. Un autre squat est expulsable qui est Alzol. C'est un squat d'exilés. Au total, c'est 120 personnes. Et en tout cas, on est beaucoup mobilisés par rapport à ça, notamment parce que la loi Kasbarian qui est passée il y a maintenant presque 2 ans est une catastrophe pour toutes les personnes précaires sur le logement, que ce soit les personnes en squat ou les personnes en location, puisque ça facilite beaucoup les expulsions. Et donc évidemment pour nous c'est une lutte primordiale, puisque c'est la base de la dignité humaine d'avoir un toit sur la tête et à manger. Et du coup voilà, merci.
Violence sociale, climatique et policière, on ne va pas se laisser faire. Violence sociale, climatique et policière, on ne va pas se laisser faire. Violence sociale, climatique et policière, on ne va pas.
On poursuit cette manifestation qui traverse une partie d'Aubervilliers ce 1er mai 2025. En appel donc à cette mobilisation et ces manifestations qui ont lieu un peu partout en France pour la fête et la lutte des travailleurs et travailleuses. Vous êtes toujours à l'écoute de l'actualité des luttes sur l'antenne de Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM et ce jusqu'à 13h30.
Bonjour Nicolas de la FCPE Aubervilliers. Sur les luttes autour de l'éducation, juste un petit rappel, l'année dernière on était nombreux et nombreux déjà à se battre pour un plan d'urgence pour l'éducation à hauteur de 358 millions d'euros pour enfin parvenir à une sorte d'égalité de traitement entre notre département et le reste de la France, même si c'est pas pour dire que dans le reste de la France tout va bien du côté de l'éducation et des services publics. On n'oublie pas nos revendications, on pardonne pas qu'elles aient été enterrées de cette manière. On continue à se battre pour. Sur Aubervilliers, il y a aussi une lutte tout au début de l'année, plus locale, contre la municipalité, mais on voit que c'est pas si local que ça parce que plein d'autres municipalités font la même chose pour pénaliser la non-réservation à la cantine. Et donc il y a eu toute une lutte qui a fait reculer la mairie. Elle est dans une position où on ne sait pas trop ce qu'elle pense aujourd'hui, mais elle ne fait plus ce qu'elle avait entendu faire. Elle n'a pas admis abdiquer, mais en tout cas c'est à peu près ce qui se passe d'après les retours qu'on a sur le terrain. Et puis la lutte qui démarre tout juste et qui nous attend, ça va être à nouveau sur les fermetures de classes, puisque donc apparemment l'éducation nationale considère toujours qu'on est un département privilégié qui percevrait trop. C'est ce qui nous a été dit. On a été reçus par la direction de l'éducation nationale au niveau départemental, où il nous a été dit quand même, le 93, vous recevez beaucoup. Rendez-vous compte, avec ce scandale des dédoublements de classe en grande section, CP, CE1, un dédoublement de classe, maintenant, ça doit être 17. Donc, moi, effectivement, on fait des maths dans le 93, donc on apprend peut-être pas très bien, mais 17 fois 2, pour moi, ça fait 34. Donc, une classe complète, ce serait 34. Donc, c'est absolument scandaleux. Ce qui est scandaleux aussi dans le discours qui nous était tenu, c'est le fait que, bah oui, ça se justifie tout simplement par la baisse de la natalité. Pourquoi pas ? Je ne suis pas pour le réarmement démographique. Mais on nous dit aussi que ça justifie bah, parce que les gens, ils évitent le service public de l'éducation du 93 pour aller soit à Paris, soit aller dans le privé. Et ça apparaît aussi naturel que la baisse de la natalité ou la neige en hiver, même s'il y a de moins en moins de neige en hiver. Donc ça paraît tout à fait scandaleux. Il n'y a aucun travail sur la qualité, justement sur l'idée que peut-être il faudrait renforcer la qualité du service public de l'éducation dans le 93 pour éviter cette fuite. Non, au contraire, on en tire argument pour à nouveau supprimer des classes. Et ce sont 15 classes qui devraient être fermées dans le premier degré à Aubervilliers. On a par ailleurs, toujours dans ce contexte, un manque chronique de remplaçants. En gros, la plupart du temps, quand un enseignant est absent, et c'est toujours pour une bonne raison, que ce soit un arrêt maladie ou que ce soit une formation, eh ben, il n'est, ou elle n'est pas remplacée. On a toujours un manque chronique d'accompagnantes et d'accompagnants d'élèves en situation de handicap. Alors là, ils nous disent, bah, on ne trouve pas. Ah ouais, Standec, au prix que vous proposez, 24 heures payées au SMIC. Donc évidemment, on est solidaire des revendications des accompagnantes et accompagnants d'élèves en situation de handicap. On a aussi des postes vacants d'infirmières scolaires. Là, même chose, même réponse, ah bah on a du mal à trouver, bah peut-être qu'il faut réfléchir un petit peu à l'attractivité. Les fonctionnaires sont supposément des privilégiés, mais si les gens ne veulent pas venir, c'est peut-être qu'il faut réfléchir aux conditions. Donc voilà les combats en cours pour la FCPE. Merci et bonne manif.
Oui, bonjour à toutes et à toutes. Roland, Aubert sans la peur, RESF Aubervilliers. Donc je voudrais qu'on dise quelques mots sur la situation des étrangers en France, qui est de plus en plus difficile, qui est de plus en plus dramatique. Depuis la loi Darmanin de 2024 et la récente circulaire de Retailleau, leur situation a empiré. C'était déjà pas bien facile avant d'obtenir des régularisations, d'obtenir le droit de travailler, de vivre en France. C'est de plus en plus difficile. Ce qui a été mis en plus, c'est les 7 ans. Il faut rester 7 ans en France sans travail, sans droit, pour pouvoir éventuellement déposer un dossier en préfecture. Ça touche particulièrement les parents d'enfants français. Non, les parents d'enfants scolarisés, pardon. Auparavant, il fallait 5 ans de présence, toujours sans travail, et 3 ans de scolarité pour les enfants pour avoir le droit d'avoir un titre de séjour, ce qui arrivait relativement facilement. Maintenant, c'est 7 ans de présence. Et donc, ça veut dire que, et c'est même pas sûr que ce soit bien facile de le faire. Autre point, l'OQTF, qui était auparavant d'un an et qui, au bout d'un an, tombait. C'est-à-dire qu'elle était exécutoire pendant un an. Au bout d'un an, elle tombait et on pouvait éventuellement, après, redéposer un dossier pour avoir un titre de séjour. Maintenant, les OQTF sont de 3 ans. Et donc pendant 3 ans, on peut appliquer une OQTF qui a été faite. Et ensuite, après les 3 ans, si l'OQTF n'a pas été exécutée, pour redéposer un dossier, c'est très souvent difficile parce qu'on peut arguer qu'il n'y a pas eu application de l'OQTF. Oui, avec le trouble public qui est mis en avant dans toutes les situations et qui n'est absolument pas, bien sûr, défini. Et puisqu'on est devant le lycée... Le Corbusier, je voudrais aussi insister particulièrement sur la situation des jeunes majeurs scolarisés. Auparavant, la circulaire Valls, on n'avait pas particulièrement de tombe crochue avec Valls, mais enfin, elle permettait que pour des jeunes scolarisés depuis 2 ou 3 ans, à 18 ans, de déposer un dossier et de pouvoir continuer leurs études avec un titre de séjour. Aujourd'hui, il n'y a plus rien dans le texte de Retailleau. On nous dit qu'il faut continuer à appliquer les choses, mais il n'y a aucun critère qui est fait. Donc c'est une situation qui devient extrêmement grave et difficile. Il y a une pétition qui a été mise en place sur le 93 par les différents syndicats FSU, CGT, Solidaire, avec la Fédération de parents d'élèves et avec RESF. Cette pétition, elle circule, a été envoyée dans toutes les écoles. Il faut absolument la signer et et s'en saisir. Il faut en discuter, particulièrement dans les bahuts, parce que c'est effectivement à ce moment-là que les jeunes ont 18 ans. Donc il faut absolument en parler. Et malheureusement, on aura sur la ville un jeune de 18 ans qui aura une QTF et qui sera exclu. Il va falloir faire une mobilisation, comme on le faisait dans l'ancien temps, si j'ose dire, avec RESF, mobilisation des professeurs, mobilisation de la population, mobilisation des élus. Aubervilliers, ça va être compliqué. Et mobiliser, enfin, avec certains élus, ça va être compliqué. Voilà. Et donc, il faut des mobilisations. Donc, il faut absolument, dès qu'on a connaissance d'un jeune qui a une OQTF en étant scolarisé, qu'on fasse remonter l'information et qu'on se mobilise sur la ville. Voilà. Je crois qu'il y a du boulot à faire.
À ceux qui veulent détruire l'école publique, Aubervilliers répond. Résistance
à ceux qui veulent détruire l'école publique, Aubervilliers répond.
À ceux qui veulent détruire l'école publique, Aubervilliers répond.
On va faire une dernière prise de parole avec l'association des jardins qui lutte toujours pour le... Voilà, pour le soutien. Et on vous propose de s'arrêter là, parce que tout le monde est en train de dépérir à cause de la chaleur. Voilà. Et si on veut aller jusqu'à Paris après, c'est plus simple. Donc on va finir sur ta prise de parole. Merci encore à tout le monde.
Donc pour ce 1er mai, la fête des travailleurs, moi j'avais envie de dire que c'était aussi, enfin, de toute façon, la lutte des travailleurs. Et je voulais vous faire le parallèle avec ce qui s'est passé au jardin. Parce que pour moi, ça a beaucoup de sens. Parce que la lutte contre l'artificialisation des sols, en fait, ça relève des mêmes problématiques. C'est toujours des histoires de pouvoir, de capitalisme prédateur, de capitalisme sauvage, des histoires de puissants contre des... comme nous, j'allais dire des banlieusards, des pauvres. Et c'est l'histoire du profit de quelques-uns au détriment de tous. Et ça, c'est vraiment ce qui se passe sur les jardins. C'est super d'être là parce que moi, je pense qu'il n'y a pas d'autre avenir à part la mobilisation citoyenne et la lutte collective. Tout seul, on n'arrivera à rien. C'est pour ça que c'est super sur Aubert qu'on ait plein de collectifs et de gens qui sont en lutte. Il n'y a pas d'autre voie. Alors les jardins, vous savez, on a été une lutte qui a été pas mal médiatisée. On s'est beaucoup battu, on a beaucoup gagné, on a beaucoup souffert, on a occupé. Ça a été 5 années difficiles dans la vie de ceux qui ont lutté. On pensait qu'on en avait fini là, mais c'est vrai que moi j'ai l'habitude de dire aux jardiniers et à tous les soutiens, les habitants qui nous ont soutenus, qu'en fait la lutte s'arrêtera jamais, parce que c'est un terrain vierge, c'est de la terre, c'est facile à bétonner, et jamais ils arrêteront d'avoir envie de couler du béton. Hier soir, j'ai assisté à une conférence d'un gars qui m'a exaspéré. Bon, c'est une grande pointure. Il s'appelle Pierre-André Sellos, c'est un spécialiste des sols. Et quand j'ai abordé la lutte, voilà, c'est les gens qui ne sont pas en lutte, donc c'était vraiment très pénible. Et il a dit un truc intéressant, c'est-à-dire qu'on coule du béton. Bon, toutes les heures, on détruit 6 terrains de foot en France, toutes les heures. C'est énorme. Et il a dit un truc, c'est que la construction des logements croît 3 fois plus vite que la population. Ça veut dire qu'on ne construit pas pour loger les gens. En fait, on construit pour que les gens qui coulent le béton, pour que les lobbies du béton se fassent du fric et se remplissent les poches. C'est pour ça que ça construit. Ça ne construit pas pour nous, et surtout pas du logement social. Et surtout pas du logement qui va moins détruire la planète, surtout pas du logement qui va être moins extractiviste, surtout pas du logement qui va pomper du sable partout. Enfin voilà, je pense qu'on va droit dans le mur, et là, sur les jardins, malheureusement, la lutte reprend, parce que il y a 2300 m² que la gare n'utilisera pas, parce qu'on a négocié avec la gare, et la gare a décidé de construire autrement. Ils se sont rapprochés de la gare de la ligne 7. Donc du coup, on était super contents, et l'an dernier, on a attaqué le PLU sur ces 2300 m² qui étaient dédiés à la gare, en disant « redonnez-les au jardin ». Et on a perdu. On a perdu, et là, actuellement, on est au Conseil d'État, on attend les résultats du jugement, il est très probable qu'on perde aussi. Et du coup, ça veut dire qu'au bout des jardins, sur 2300 m², ils vont à nouveau nous détruire 2300 m² de jardins et vous détruire à tous 2300 m² d'espace qui permettent à la ville de respirer, d'être moins dans les îlots de chaleur. Il y a une loi qui s'appelle la loi ZAN, zéro artificialisation nette. Le résultat est nul, on continue à artificialiser partout. À Aubervilliers, on artificialise tout ce qui est possible. Et il n'y a rien à faire pour arrêter ça, à part se mobiliser, être ensemble, pour garder des sols, parce que les sols, c'est la vie, et c'est notre vie à nous. Quand on aura tout bétonné, et bien on mourra tous. Ah oui, excusez-moi. Comme on relance la lutte, on va faire une AG de lutte début juin, parce qu'on a besoin de gens pour venir nous soutenir, pour venir dans la lutte avec nous. Parce que ceux qui ont été beaucoup dans la lutte, ils sont un peu épuisés. Et donc, il faut vraiment venir nous relayer. On ne va pas tenir. Et on a besoin de sous, parce qu'après le Conseil d'État, il est probable qu'on aille plus haut. Et plus haut, c'est la Cour européenne. Donc, tout ça, ça va se discuter. Nous, on restera le caillou dans leurs chaussures. Il faut bien qu'ils sachent, les gens de pleine commune, parce que là, les 2300 m², c'est pleine commune qui les garde. Que jamais on s'arrêtera. Et on compte sur vous pour être avec nous. Donc le 7 juin, il y aura une AG au jardin pour relancer la lutte. De 14h à 16h. Merci.
Copains, regarde les rues, les flicards et les roussins montrent leur gueule pourrie. De brutes et d'assassins. Racaille, par ça serais-je abîmé. Un 1er mai sans flicaille, ça n'est pas un 1er mai. Un 1er mai sans flicaille, ça n'est pas un 1er mai. Copains voient malgré la rousse les bourgeois gras et pansus. Les richards ont eu la frousse dès qu'ils nous ont aperçus. Vipères, tremblez devant l'opprimé. Un 1er mai sans colère, ça n'est pas un 1er mai. Un 1er mai sans colère, ça n'est pas un 1er mai. Copain, car à la faconde, des grands ténors endormeurs, la haine seule est féconde, la haine des affameurs. Récolte, bourgeois, ce que tu as semé, un 1er mai sans révolte, ça n'est pas un 1er mai. Mais sans révolte, ce n'est pas un 1er mai. Copain, pense à la vengeance quand nous serons les plus forts. Nous détruirons cette engeance au pied de ces coffres forts. Charogne, quand nous t'aurons supprimé, nous fêterons sans vergogne, bourgeois, notre 1er mai. Nous fêterons sans vergogne, bourgeois, notre 1er mai.
Nous allons être dans la manifestation parisienne du 1er mai 2025. Et dans cette manifestation, nous avons rencontré des membres de l'Association des travailleurs du Congo Kinshasa, un membre de l'Assemblée de citoyens argentins en France pour qu'il nous parle de la situation en Argentine. Ensuite, nous serons avec des salariés de Monoprix en butte à la répression syndicale. Et nous terminerons cette seconde partie avec la situation de l'Institut mutualiste de Montsouris. Voilà pour cette seconde partie d'émission et on se rend dans le cortège parisien de ce 1er mai. Et voilà ce 1er mai 2025, on est place d'Italie. Aujourd'hui, c'est la journée des travailleurs et travailleuses et aussi au niveau international. Et là, je suis avec l'association des travailleurs du Congo Kinshasa. Alors, je suis là avec l'un des membres, mais qui va se présenter.
Oui, je suis le président de l'association des travailleurs du Congo Kinshasa. Je m'appelle Andy Mavambou Yakini. Alors nous luttons pour les travailleurs du Congo Kinshasa, évidemment avec les Congolais qui sont ici, qui ont des problèmes ainsi de suite, dans tous les plans.
Le Congo, on en a entendu parler beaucoup ces temps-ci. Il y a ce qui se passe avec le M23, évidemment. Et il y a aussi l'extraction minière, puisque beaucoup de pays sont en train d'essayer de mettre la main un petit peu sur les minerais et les terres rares. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette question-là, justement ?
Bah oui, justement, nous sommes venus ici le 1er mai pour dire trois revendications importantes. À ce qui concerne la guerre, nous demandons le retrait des troupes rwandaises sur le sol congolais. Ils ne peuvent pas rester là-bas. Non, ce n'est pas leur terre. Ils doivent retourner chez eux. Ça, c'est la première revendication. La deuxième revendication, c'est au niveau des ressources minières. Il y a un pillage systématique des ressources minières. Nous disons non. Les multinationales viennent. Ils utilisent même les enfants sans scrupule. Les enfants, les femmes, ainsi de suite. Ce n'est pas possible. Donc, il faut que ce soit un arrêt de pillage de ces ressources minières. Et ensuite, du côté des Congolais, nous exigeons que l'armée congolaise soit forte. Parce qu'une armée défend les territoires. Ce qui n'est pas le cas au Congo. On a assisté à des débandades incroyables. Ce n'est pas possible.
Mais tout était fait à dessein pour qu'il n'y ait pas cette armée. Parce qu'à l'époque, on disposait d'une armée, en tout cas, qui pouvait défendre nos ressources, comme la terre et la population. Or, aujourd'hui, tout a été organisé pendant plusieurs années, qu'il n'y ait pas des gens qui peuvent opposer une véritable force à tous ceux qui veulent disposer de ce pays comme ils veulent. Et d'ailleurs, on a eu une voix, même si on ne l'attendait pas. Le pape, quand il était dernièrement, François, il a dit qu'on ne se serve pas de ce pays pour exploiter ce peuple et ses ressources. Donc vous voyez, c'est triste, on en parle pendant plusieurs années. Malheureusement, et tout est resté dans le calme et c'est vraiment le silence absolu de la communauté internationale. On a été plusieurs fois dans plusieurs endroits. Malheureusement, notre voix ne porte pas, et même la voix de ceux qui ne sont pas congolais, qui s'intéressent à cette situation, à cette souffrance de ces populations, malheureusement, ça ne trouve pas d'écho. Au sein de la communauté internationale.
C'est le camarade Vika qui a parlé. Je vous passe le camarade Claude Safou.
Pour aller dans le même sens, vous savez, le Congo Kinshasa, c'est un grand pays de la francophonie. Mais la voix de la francophonie est inaudible aujourd'hui par rapport à l'ingérence, à toutes ces choses qui se passent dans notre pays. Il est quand même temps que les travailleurs, notamment français, qui soutiennent quand même la lutte de différents peuples du monde pour la justice, le respect du droit international, que tout cela prenne de la vigueur. Alors aujourd'hui on parle de beaucoup de choses, notamment qu'on bafoue le droit international quand il s'agit de ne pas respecter les objectifs qui sont d'abord à la base des idées des Américains et des Anglo-Saxons, en gros. Pour le Congo, vous savez, il y a dans la région des Grands Lacs, il y a à peu près un groupe de trois pays qui sont considérés comme des États mercenaires, c'est-à-dire des personnes qui font une guerre par procuration pour l'exploitation des ressources minières du Congo. Alors, le Canada, les États-Unis et même la France d'ailleurs, qui n'est pas en reste, ne joue pas ce véritable jeu. Tout simplement parce qu'il y a des... comment on appelle ça, les grandes industries qui ont besoin des minerais, des terres rares pour les technologies de pointe. Et il y en a un grand nombre dans ce pays-là. Alors, ils préfèrent passer par la contrebande, c'est-à-dire armer le Rwanda. Parce que lorsqu'on regarde les différents déplacements des lignes de front, mais ça suit exactement là où sont concentrées les richesses minières. Alors, et on tue, on viole les enfants, les vieillards, les femmes. Et ça, c'est quelque chose d'inadmissible. Donc, notre présence ici aujourd'hui
c'est essayer de dire qu'il faut cette solidarité des travailleurs du monde entier, notamment de la France.
Alors, comment un syndicat justement peut agir pour justement aider tous ces travailleurs qui sont exploités quoi aussi? Comment votre syndicat il agit?
Alors, le problème, c'est d'abord de s'inscrire dans le cadre de ce qu'on appelle les prolétaires internationaux, en fait, hein, donc pour essayer de défendre leurs intérêts. Dans tous les pays, les syndicats jouent un grand rôle, une courroie de transmission sur le plan démocratique, aussi bien pour préparer les masses à bien revendiquer leurs droits et surtout lutter contre les injustices sociales. Or, en Afrique, compte tenu du fait que dans la majorité des cas, les syndicats sont des syndicats jaunes, en fait, hein, inféodés au pouvoir, et ça pose énormément de problèmes. C'est ainsi que, par exemple, sous le régime de M. Mobutu au Congo, à au Zaïre de l'époque, eh bien, c'était qui les dirigeants syndicaux? C'était les membres du bureau politique ou encore de leur conseil du bureau politique. Par conséquent, les intérêts des travailleurs n'étaient pas si bien défendus. Mais il y avait quand même des syndicats qui, à travers les instances internationales, notamment l'OUSA, qui était l'organisation de l'unité syndicale africaine de l'époque, une espèce de l'ONU des syndicats, si vous voulez, et ben, avec le CISA, donc pour les pays arabes, hein, parce que l'Afrique, vous savez, il y a l'Afrique blanche et aussi l'Afrique noire. Hein. Voilà, donc tout ça. Mais ils ont mené quand même, au sein de l'OUSA, un combat pour intégrer, mais vraiment laisser porter hein, la flamme du syndicalisme en Afrique, en participant à des congrès où tous les pays qui sont pour l'internationalisme prolétarien se retrouvent et trouvent des solutions pour une nouvelle façon de diriger les syndicats. Voilà en gros, mais ça reste pour nous une source d'espoir. Et notre association, par exemple, est toujours en symbiose, en osmose avec les syndicats du Congo. Voilà.
Il se passe beaucoup de choses en Argentine depuis l'élection de Javier Milei. C'est à peu près un an, un peu plus d'un an qu'il a été élu. Et donc, on va en parler avec une personne qui fait partie de l'Assemblée des citoyens argentins en France, mais qui va se présenter et commencer justement par savoir un petit peu depuis son accession, qu'est-ce qui se passe.
D'accord, bonjour. Je suis Raoul Maillot de l'Assemblée citoyenne argentine en France. Et c'est vrai que depuis décembre 2024 et que Milei il a pris le gouvernement, la situation en Argentine, ça n'a fait que se dégrader. Se dégrader pour les secteurs qui sont les secteurs les plus populaires, les travailleurs, les étudiants, les retraités, tout ce qui pouvait être simplement des structures de la base du peuple ou les structures sociales, ce sont les premiers à être attaqués. Déjà, lui, dans son programme, il avait dit qu'il fallait écraser ou diminuer énormément l'État. Chose qu'il a fait, chose qu'il a commencé à faire et qu'il continue. Mettons au chômage 40 000 employés publics, employés d'État, en supprimant des énormes budgets pour l'éducation, par exemple pour les universités, il les a réduits de moitié. Il a gelé les salaires des retraités, c'est-à-dire que c'est pour cela que tous les mercredis, ça fait plus d'un an, les retraités font des manifestations pour réactualiser leur salaire de misère. Mais la résistance en Argentine, jusqu'à là, c'était très éparpillé. Parce que pratiquement tous les secteurs, ils ont été touchés, de différents syndicats, différents secteurs, autant soit pour l'éducation, la santé, le travail, les associations, les droits de l'homme, c'est-à-dire que c'est un gouvernement qui est négationniste, et tout ce qui signifie des droits par rapport aux droits de l'homme et les différents politique de mémoire, vérité et justice de l'Argentine, qui après la dictature, c'est une politique d'État, ils sont tout en péril, tout en péril. Les énormes archives de l'époque de la dictature, là maintenant, ils passent à des mains qui sont des négationnistes, et c'est un danger énorme pour l'Argentine, parce que c'est une page d'histoire noire que nous ne voulons pas qu'il se répète, mais nous voulons garder sa trace. Ça fait partie de tout l'héritage de ce qui est en train de nous laisser. Cet homme-là, qui est un grand ami de Trump et de tous les néofascistes de la planète, naturellement, il le considère comme ça, que c'est la liberté absolue, ce n'est pas avoir d'État, ça veut dire éliminer toutes les possibilités, tous les avantages. Directement pour lui, la justice sociale, c'est un gros mot. et pour tout ce que ça pourrait être liberté d'expression ou des droits du peuple, ce sont des choses qui doivent passer de côté. Actuellement, il y en a des grèves. Il y a des grèves nationales en Argentine. Il y en a eu une il n'y a pas longtemps, le 10 avril. Et là, commence à s'organiser d'une façon un peu plus globale. On n'en a pas une résistance massive et populaire avec un projet encore. Et ça, c'est quelque chose qui ne nous manque pas seulement à nous. Il ne manque pratiquement à tous les peuples dans lesquels l'extrême droite est là. Elle est arrivée au pouvoir d'une façon si rapide. Certainement, ils sont arrivés au pouvoir si rapide par une déception de ce qu'il a pu faire ou ne pas faire la gauche, mais les conséquences de ça sont actuellement désastreuses. Pas seulement sur l'Argentine, mais sur tout pays dans lequel un gouvernement comme celle-ci peut arriver au pouvoir. En Argentine, la lutte continue, mais ça va être assez difficile, certainement, parce qu'il en a un pouvoir médiatique, politique, économique à qui l'intéresse de que l'Argentine fasse partie à nouveau d'un système colonial. En Argentine, tout est à vendre, tout ce qui est de l'État est à vendre, et réellement, c'est un désastre pour l'Argentine. Comme pour faire ce programme économique, son projet économique, ils avaient besoin de toujours endetter encore plus l'Argentine. Moralité, on est en train d'endetter pour trois générations.
Quelles sont les forces qui s'organisent justement pour essayer de contrer ce pouvoir ?
Bon, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, pratiquement toutes elles sont touchées et elles essaient de s'organiser. Mais le problème, c'est le problème politique. Les syndicats, d'une façon éparpillée, ils l'ont fait. Chaque fois qu'ils sont touchés, soit les employés d'État, les métallurgistes, les sidérurgistes, tous les secteurs qui ont été touchés par ce gouvernement, ils bougent, ils font des grèves, ils font des manifestations. Mais d'une façon, je ne dirais pas anarchique, mais isolée, parce qu'il n'y a pas une organisation centrale. Là, maintenant, ils commencent à avoir un plan de lutte. Pour tous les secteurs ouvriers, qui sont trois centrales syndicales en Argentine, tous les trois, en ce moment, ils sont en train de demander les mêmes choses. C'est réivindication sur les salaires, sur les conditions de travail, et qu'il n'y ait pas de chômeurs en Argentine, qu'il n'y ait plus de chômeurs d'État. Ça fait partie de la partie syndicale. La partie, par exemple, d'éducation et de santé, ils continuent à être en grève, ils continuent à lutter. Mais c'est ce qu'il manque le plus, c'est un projet politique global pour l'Argentine, pour remplacer ses gouvernements. Et ça, c'est quelque chose qui nous manque énormément. Il y en a quelques forces en présence, mais naturellement, ils ne sont pas arrivés encore à un accord plus ou moins assez marquant, comme pour pouvoir dire, il y en a un projet différent à ce projet néolibéral qui est en train de nous détruire. Mais la résistance continue, mais c'est les projets politiques qui nous manquent. Les centrales syndicales continuent à lutter.
Dernièrement, il y a eu un grand scandale puisque Javier Milei avait manipulé les marchés. Est-ce que tu peux nous en parler et nous dire si ça a des conséquences politiques et si les gens ont réagi vivement en manifestant, en s'organisant ?
Oui, ça c'était par rapport à une arnaque énorme et que lui, il a promu une Bitcoin. Bon, en considérant et en faisant une publicité de quelques minutes de que c'était pour promouvoir la petite et moyenne industrie en Argentine, chose qui était complètement faux, et d'évaluer quelques centimes cette pièce, il est passé à quelques milliards de dollars. Et au bout de quelques heures, ceux qui manipulaient cette structure, ils ont vidé les caisses et ils ont un arnaque de plus de 200 millions de dollars. Ils ont laissé des milliards de personnes dans le tapis, mais malheureusement pour lui, ce sont des personnes qui se sont de sa propre structure idéologique. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont des suiveurs de la politique libérale de Milei. Et il est dans la justice argentine et dans la justice américaine aussi, des États-Unis, parce qu'il en a eu des arnaques un peu partout. Et actuellement, en Argentine, il est dans la Chambre des députés, puisqu'il s'est formé une commission d'enquête qui va, je ne sais pas jusqu'à quelles conséquences, hein, mais qui a commencé à travailler sur pourquoi et qu'est-ce qu'il a fait comme manipulation la structure du gouvernement. Mais que c'est certain qu'il ne peut pas sortir les mains propres dans cette histoire. Ça a déjà sa cote de popularité. Avec ça, il a baissé de 7 points. Ça aurait pu, dans un autre pays, ça aurait pu être peut-être de 20-30%. Mais comme les médias, ils essaient de couvrir tout ce qu'il fait Milei, il a baissé, mais pas tant qu'il aurait dû. Mais c'est un fait délictuel, carrément. C'est ce qu'il avait, il ne pouvait pas le faire en président. Et c'est tout simplement un délit. On verra ce que ça donne la justice. Pas seulement en Argentine, aux États-Unis aussi, parce qu'il y en a eu des milliards d'Américains qui sont investis là-dedans et qui sont actuellement avec 0 centimes.
Et d'ailleurs, Donald Trump lui-même avait, avec ses taxes douanières, avait fait en sorte d'avantager ses copains et les gens qui le suivent pour s'enrichir en faisant une manipulation des cours de marché.
Donc on voit que ce genre de choses se répètent. Et ce qui nous amène finalement à parler de l'international fasciste qui ne se rejoint pas seulement sur les crypto-monnaies, mais qui se rejoignent sur bien d'autres choses. Oui. Est-ce que tu peux nous renseigner sur justement les alliances entre Javier Milei, Trump, mais pas que, en étendant vraiment sur l'international fasciste?
Oui, je pourrais vous dire que c'est tout simplement idéologiquement, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce sont deux personnages qui, malheureusement, pour leur peuple, viennent théoriquement à mettre de l'ordre en détruisant l'État et de que les marchés soient encore plus libres de ce qu'il est. Et quand on dit plus libre, ça veut dire libre pour que les grandes entreprises, les grands propriétaires, les multinationales et tous ceux qui peuvent dominer un marché puissent faire exactement ce qu'ils veulent. Des deux côtés de l'hémisphère américain, c'est la même idéologie. Mais il y a une petite différence entre Trump et Milei, c'est que Milei se présente comme quelqu'un de soumis devant Trump. C'est un esclave de Trump. Trump, il décide là-bas. Il décide pour les États-Unis, pour lui, pour ses besoins, pour toute une classe sociale qui est américaine et que naturellement, il va se mettre plein les poches. Milei en Argentine, il ne fait rien pour l'Argentine. Tout ce qu'il est en train de faire, tout ce qu'il est en train de préparer, de réaliser, autant pour les dettes qu'il est en train de prendre avec les fonds monétaires internationaux que pour les contrats qui passent avec les différentes entreprises américaines pour venir exploiter le lithium, les cuivres, l'or, l'argent et aussi même l'eau, sont tous américaines ou d'autres pays dans lesquels l'Argentine elle est en train de devenir à nouveau une colonie. C'est la même idéologie, mais ce n'est pas par les mêmes objectifs. Hein. Trump, dans cette relation avec Milei, Trump, c'est un patron. Milei, non. Milei est complètement soumis. Il a admiration pour Trump, mais Trump, il est un nationaliste par rapport aux États-Unis. Milei, non. Milei, non. Milei, tout simplement, il est en train de brader l'Argentine. Non, ce sont deux personnages de la même idéologie, mais ils n'ont pas les mêmes méthodes.
En France aussi, il y a de la répression au niveau syndical et des travailleurs et travailleuses. Et on va parler un peu de ce qui se passe à Monoprix. On a appris très récemment qu'une des personnes de Monoprix va passer le 14 mai en procès. Et donc, on va faire le point sur cette question-là et sur un peu la situation à Monoprix avec deux personnes qui travaillent à Monoprix mais qui vont se présenter.
Alors, moi, c'est Dominique, Monoprix Le Courbe et l'UCSE.
Et moi, c'est Waïd, Monoprix Colombe, dans le 92, élu CSE aussi et secrétaire de CSE en même temps.
J'ai appris qu'aujourd'hui, Monoprix était ouvert. Qu'est-ce qui se passe ?
C'est hallucinant de voir que les patrons, ils aiment l'argent. À tout prix, ils veulent ouvrir. Ils oublient que le 1er mai, que tout le monde s'est battu pour avoir cette journée et que c'est une journée très importante pour les élus, pour les salariés de Monoprix et autres. Là, ils ont ouvert aujourd'hui pour dire comme quoi que, soi-disant, entre parenthèses, qu'il manque de l'argent, mais ce n'est pas vrai parce que nous faisons de l'argent. Mais ils oublient que les gens de la sécurité, ils sont des travailleurs aussi. Ils méritent aussi un jour de repos. Et c'est le seul jour qu'ils peuvent être en famille. Et là, ils ne peuvent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ont mis en mode autonome, ce qui veut dire que c'est les gens de la sécurité qui vont ouvrir les magasins, qui vont servir les clients, passer en casco, servir la clientèle. Et ce n'est pas normal.
Alors, non seulement Monoprix engage des agents de sécurité, mais utilise de la répression aussi. J'aimerais bien justement que vous me disiez un peu ce qui est en train de se passer là actuellement à Monoprix et les procès.
Concernant la répression syndicale, c'est dans la continuité que Monoprix a entrepris depuis des années, depuis 2020. Après l'assignation des camarades 17 en première assignation et 12 en deuxième, mais maintenant on a notre camarade Alain Samas qui est assigné aussi au tribunal, son seul tort qu'il a osé dénoncer sur les réseaux sociaux ce qui se passe chez Monoprix. On ne sait pas maintenant dans quelle position la loi elle va se positionner. On est dans le droit d'expression et malheureusement, selon Monoprix, on ne peut plus s'exprimer dans les réseaux sociaux, on n'a plus le droit de dénoncer. Ça, Alain, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Et on a d'autres camarades aussi qui subissent de la répression syndicale en interne. On en a plein. On en a plein, malheureusement pour eux, ceux qui ont des mises à pied, ceux qui sont mis en placard indirectement, ceux qui n'ont pas été augmentés depuis 10 années. Le panier, on va dire, elle est énorme concernant la répression syndicale. La répression syndicale, nous, on l'a subi pendant les élections, après les élections, et je pense même après notre retraite, hein, parce qu'ils ne vont pas nous lâcher. Et nous aussi, le message qu'on va leur adresser, nous aussi, on ne va pas reculer. Nous, on est conscients que l'avenir des travailleurs, c'est pas le patronat qui va nous donner, c'est avec la lutte.
Mais quand même, ça pose aussi une autre question, parce que ça fait des années que vous êtes en lutte à Monoprix. Hein. Comment se fait-il qu'ils peuvent se permettre ça, justement, de vous assigner au tribunal ?
Non, parce que je pense que le seul moyen qu'ils ont pour nous faire baisser, ne pas parler, ne pas dénoncer les choses, c'est que le tribunal. Et ils pensent que nous avons peur. On n'a pas peur, on est passé par là, on sait qu'est-ce que c'est, et ça nous a motivés pour continuer la lutte. Et je pense que regarde, ils doivent se poser la question. On les a signés une fois, deux fois, trois fois. On l'essaye avec M. Tamas, on n'arrive pas. Ils essayent de trouver une solution, mais ils ne vont pas arriver. On a du monde avec nous, il y a du monde qui nous soutient, il y a du monde qui est avec nous, qui nous aide à avancer devant le patronat. Et le patronat aussi, je pense aussi qu'ils ont, entre parenthèses, des élus d'autres syndicats qui leur donnent le pouvoir aussi, parce qu'ils signent à tout. À toutes les revendications qu'ils donnent, ils signent. Alors je pense que c'est ça qui fait que les gens de la CGT peuvent se permettre de dénoncer et de montrer comme quoi que nous sommes toujours là et qu'on va toujours être là.
Vous pouvez rappeler le rendez-vous justement pour le procès ?
C'est le 14 mai. Ça commence à 14h, mais il y a un rassemblement à 12h30.
Alors où ça ?
C'est à Nanterre.
Donc ça sera le rassemblement devant le tribunal ?
Devant le tribunal, oui.
On va parler de l'Institut Mutualiste de Montsouris qui est en lutte actuellement. Et on va en parler avec une personne qui suit la situation. Peut-être commencer par l'historique de l'Institut. Qu'est-ce que c'est l'Institut Mutualiste de Montsouris ?
C'est un hôpital qui est tenu par le groupe MF PASS, qui est l'association de plusieurs mutuelles. Aujourd'hui, ces mutuelles-là ont décidé de partir sur d'autres horizons, qui ne sont plus le médical. Mais au moment de la construction, il y a 30 ans, un peu plus de 30 ans, l'hôpital a été construit avant les subventions de l'État qui ont été données en 2020. L'IMM a été construit en 1995 sur des fonds avec des subventions des mutuelles, mais aussi avec un emprunt bancaire qui a plombé un peu l'établissement et les MF PASS, qui s'élève aujourd'hui à 140 millions d'euros. La seule solution, c'est vu que les mutuelles ont décidé de se désister de l'engagement vis-à-vis des mutuelles et d'un établissement aussi qui est dans le 77, qui est médico-social. Il a été décidé en mois de février d'un redressement judiciaire, dû aussi au fait que l'État ne donne pas les subventions nécessaires chaque année, et entre autres cette année n'a pas donné 5 millions d'euros qui permet de payer le bail en tout cas de l'IMM, parce que l'IMM est construit sur un terrain public.
Dans le 14e arrondissement.
Le 14e arrondissement de Paris, qui est public. Donc le terrain appartient à l'État, mais les locaux sont loués à l'État en tout cas. Et ce déficit-là est augmenté chaque année depuis 30 ans. Et aujourd'hui, les mutuelles ne veulent plus subvenir seules. L'établissement ne peut pas s'en sortir seul non plus. Donc c'était décidé qu'il y aurait une litigation judiciaire qui est en cours. Les groupes privés, publics ou autres ont jusqu'au 16 mars pour déposer les dossiers. Et à partir du 16 mars, il y aura toutes les instances représentatives des syndicats, de la direction judiciaire, de l'ARS et de l'État qui décideront de qui va reprendre cet établissement en termes de gestion d'établissement. Pour l'instant, c'est en cours. On ne peut pas en dire plus pour l'instant parce que les dossiers ont été retirés, mais on ne sait pas qui va déposer réellement un dossier. Et à la suite de ça, courant de l'année, on sera l'IMM, qui est un établissement hospitalier de pointe, parce qu'on a été quand même inaugurateur sur plein de projets médicaux. La celloscopie, on prend la pédopsychiatrie, qui n'est pas prise en charge dans tous les bassins parisiens. On fait de l'AMP aussi, l'assistance à la procréation assistée. Et on fait aussi l'aide à l'accouchement aux personnes handicapées. Tout ça, c'est assez innovateur. Mais aujourd'hui, malheureusement, n'ayant pas les moyens de pouvoir continuer dans la structure où on était avec le groupe NFPAS, on cherche un preneur.
Quelles sont les menaces un petit peu qu'il pourrait y avoir ? Est-ce que, par exemple, ça pourrait tomber dans le giron des autres assurances, par exemple ? Est-ce que c'est un danger qui pourrait arriver pour l'Institut Mutualiste de Montsouris ?
C'est un danger. Ce qu'on a à craindre, c'est un, déjà dans le dossier qui est déposé, c'est garder le maximum de garder le personnel, garder les services autant que possible. Mais il n'y a pas de promesse, il n'y a pas d'engagement signé en tout cas, ni de. Entre autres pour avoir. Le ministère a été interrogé d'après ce que j'ai compris. Il ne s'est pas engagé pour assurer ces emplois-là. Donc ce qu'on peut craindre, c'est une vente à la découpe. Alors quand je dis vente à la découpe, c'est pas on prend un service, on l'emmène. C'est que l'établissement soit géré par d'autres groupes hospitaliers. Lesquelles, pour l'instant, je ne peux pas savoir.
Est-ce que vous avez des alternatives ?
Il y a une alternative, mais je pense pas que ça soit une volonté de l'État. C'est que l'État, vu qu'il est propriétaire du terrain et propriétaire des murs en 2043, l'État pourrait se positionner dès aujourd'hui sur la reprise de l'établissement, là en 2025, et pas attendre 2043. Par contre, je pense pas que ça soit une volonté. Et vu le déficit de la santé au niveau de France et le déficit de la PHP sur l'Île-de-France qui s'élève à 3 milliards d'euros, je vois pas trop comment ils peuvent se positionner. Mais c'est une solution.
Est-ce qu'il y a une intersyndicale qui est en place ou c'est seulement un seul syndicat ? Comment s'organise un petit peu la résistance par rapport à ça et la contre-offensive plutôt ?
Il y a un intersyndicale qui est là. On n'a pas tous les mêmes objectifs parce qu'autrement, on n'aurait qu'un seul syndicat qui ferait ça. On a chacun notre objectif, mais il est sensiblement le même. Hein. C'est la préservation des emplois, la préservation des services et la préservation du cœur même de l'Institut Mutualiste Montsouris. Ça, on travaille réellement en intersyndicale.
Comment la suite, donc il y a cette procédure judiciaire,
oui.
Comment toi tu vois cette procédure et comment ça peut évoluer?
C'est un peu nouveau dans le milieu hospitalier. On est un des premiers, en dehors de la technologie qui s'est faite en premier à l'IMM, on est le premier établissement à passer devant un redressement judiciaire comme ça, et du coup on est un petit peu à l'aveugle. C'est pas dans notre gène en tout cas de la santé de savoir comment ça se passe, et c'est très encadré au niveau de la justice. Donc du coup, ce qui va être fait, c'est qu'on va avoir à la suite de ça des propositions qui vont être déposées avec des études qui vont être faites. Donc on va nous présenter les potentiels repreneurs sur la table. Après, à chaque instance, qu'elle soit patronale, qu'elle soit syndicale, de décider celui qui serait le mieux, en tout cas pour le personnel, en tout cas la société qui serait la mieux. Mais on sait pas pour l'instant. En salarié, on est 1680.
Vous êtes soutenu par d'autres secteurs de la santé ?
Alors j'ai posé la question parce que moi-même je participe à des réunions en tant que personne d'assistance. Je me suis quand même permis de poser la question à différents établissements hospitaliers, si Saint-Joseph, la Salpêtrière, Cochin, Curie, en leur demandant si demain, parce qu'à l'époque on ne savait pas trop si l'IMM avait complètement fermé, si demain l'IMM fermait et s'ils étaient capables de reprendre la clientèle de l'IMM. La réponse est non. À preuve, parce que la Salpêtrière nous dit, nous on vous envoie des malades parce qu'on n'a pas la place de pouvoir les prendre ou le temps de pouvoir les prendre, on vous les envoie parce qu'on sait qu'ils vont être bien soignés chez vous. Saint-Joseph fait pareil, on travaille aussi en transfert de patients à droite et à gauche. On a un partenariat avec Curie depuis quelques années, donc les personnes qui sont atteintes du cancer peuvent être traitées des patients de l'IMM peuvent être traités à Curie, mais des patients de Curie peuvent être traités à l'IMM parce qu'on a des spécialités qu'eux ne font pas et ainsi de suite.
Qui se retrouvent, quoi.
Ouais, c'est ça. Puis, de toute façon, le principe en cœur même de l'établissement, c'est de sauver de pouvoir donner la technologie qu'on possède, au mieux qu'on peut pour sauver le patient.
Simplement pour vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital. Protéger le climat et pas le capital. Protéger le climat et pas le capital. Protéger le climat et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur les Coligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, et bien évidemment Radio Primitive sur Reims, sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.